Prenons nos Bibles et regardons ensemble aujourd'hui dans le livre du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Et mon texte aujourd'hui, c'est principalement Isaïe 62 et le verset 2. Isaïe 62 et le verset 2. Nous allons commencer dans le verset 1, certainement, où Isaïe, ici, parle de l'amour de Sion. Et il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Donc voilà le titre de cette étude aujourd'hui, un nom nouveau. Qu'est-ce que c'est d'avoir un nom nouveau? Que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors, beaucoup en lisant dans les Écritures, surtout quand nous voyons le nom Sion, nous savons que c'est le nom de la montagne où Dieu a ordonné à ce que le temple soit construit. Et durant tout l'Ancien Testament, c'était le centre de l'adoration. S'il y avait à adorer Dieu, il fallait venir à Sion, il fallait monter sur cette montagne, et c'était là qu'il y avait le temple, qu'il y avait les sacrificateurs, les sacrifices, et tout cela devait exister jusqu'au jour où le Seigneur Jésus lui-même est venu dans le monde. Et c'est dans cet endroit que lui-même, il a offert sa vie en sacrifice à Dieu. Donc, ça signifie que jusque là, le temple et les sacrifices, les sacrificateurs représentaient cette grande œuvre du Seigneur Jésus qui devait venir accomplir. Mais aujourd'hui, quand beaucoup lisent de telles portions des Écritures, ils s'imaginent que ce lieu physique doit continuer à être béni. Et ils prêchent d'une manière à ce que lorsque le Seigneur Jésus revient, de nouveau à la fin des temps, que c'est ici, dans ce lieu, qu'il va une fois encore établir son royaume. D'autres disent un royaume de 1000 ans sur la terre avant que ce monde ne soit détruit. Mais ici, dans ce passage, et c'est une révélation que Dieu a donné à Isaïe qui a prêché quelques 500 ans avant la venue du Seigneur Jésus la première fois. Nous avons donc une prophétie ici qui concerne non pas le lieu physique de Jérusalem, mais plutôt ce que ce lieu représentait. Et je peux vous dire que ce passage ici ne concerne pas un lieu physique à Jérusalem, mais plutôt l'Église. Cela prévoit l'Église de Christ, que Christ devait établir lorsqu'il est venu dans ce temple et il a accompli tout ce que le temple signifiait en ce qui concerne sa personne et son œuvre. jusqu'à ce que nous pouvons dire aujourd'hui que ce passage, quand il dit ici dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, c'est pour l'amour de ce que Sion représentait. Et si nous regardons, par exemple, dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22, nous allons voir ce que dit les Écritures à sujet de ce lieu de Sion. Ça ne devait pas être un lieu d'adoration à perpétuité, mais ça représentait l'Église du Christ, que Christ devait venir et établir par son sacrifice, lui-même étant le souverain sacrificateur que les anciens souverains sacrificateurs représentaient, et son sacrifice que les sacrifices représentaient. Et je dis cela parce qu'ici dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22, l'auteur écrit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem, notée céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. » Les premiers-nés sont ceux qui sont les élus de Dieu en Jésus-Christ, qui est le premier-né, et les élus premiers-nés en eux, en lui. Du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection. Notons, c'est écrit des esprits des justes, ça parle de ceux qui sont déjà morts, mais qui sont maintenant devant la face de Dieu au ciel, cette Jérusalem céleste, représentant cette assemblée de la montagne de Sion, c'est-à-dire, verset 23, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Comment ils sont inscrits dans les cieux? Ça, c'est les élus dont les noms étaient inscrits avant les temps éternels, avant la fondation du monde, pour que Christ vienne et qu'il paye leurs dettes sur cette ancienne montagne. Mais une fois qu'il a payé la dette, donc cette montagne n'a plus de signification, sauf en ce que ça représente. L'Église de Christ, dont verset 24, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Comparons ce que Ésaïe dit ici, dans Ésaïe 62, où c'est écrit, alors les nations verront ton salut. Quand c'est écrit les nations, il s'agit du peuple, non seulement les Juifs, mais du peuple de Dieu qu'il a élu, il a choisi pour qui Christ est venu racheter de toute nation, de toute langue. Et les nations verront, pas seulement physiquement, avec leurs yeux, mais voir dans le sens spirituel que ce peuple élu partout dans le monde verra l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Là où, sur l'ancienne montagne de Sion, tout cela a été accompli. Et tous les rois, ta gloire, dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit que Dieu a fait de ce peuple que Christ a racheté, ça c'est dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 5, un royaume, c'est ça le sens du mot roi, il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1, ça commence dans le verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Notons les paroles qui sont utilisées pour décrire ce royaume, décrire cette assemblée que Christ est venu établir et compare ça avec ce que Ésaïe a prophétisé. Il n'est pas en train de parler ici du rétablissement de l'ancienne Jérusalem ou bien qu'il y a encore des prophéties à être accomplies en ce qui concerne la nation physique d'Israël. Ceux qui prêchent ce passage de cette manière n'ont pas encore vu la gloire de Dieu dans l'accomplissement de toutes choses dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prêchons, nous devons prendre ces passages et les déclarer dans leur contexte. Nous ne sommes pas en train de promouvoir l'État d'Israël ou bien cette nation physique d'Israël. Tout ce que Dieu a dû accomplir à travers cette nation est déjà accompli, c'est fini. Christ, il a préservé la nation d'Israël jusqu'à ce que Christ vienne. Et maintenant que Christ est venu et tout est accompli, c'est maintenant que nous voyons l'accomplissement de toutes choses dans cette nouvelle Jérusalem. Et le Sion dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, l'assemblée des premiers-nés. Même chose ici dans Apocalypse chapitre 1. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Si nous sommes les premiers-nés, c'est parce que Christ est le premier-né. Il a le premier-né tient tous les droits de l'héritage du royaume. Et c'est par lui que ceux qu'il a sauvés aussi tiennent part. C'est à cause de Christ que nous sommes appelés les premiers-nés. Mais je voudrais, dans Ésaïe 62, mettre l'accent sur la partie qui dit « Et l'on t'appellera d'un nom nouveau ». J'ai pensé à cela dans la vie. Quand est-ce que quelqu'un reçoit un nouveau nom? Premièrement, c'est la tradition dans un mariage. Si une femme se marie, donc la femme prend le nom de son mari. Ça, je crois, c'est partout dans le monde. Et cette femme, alors, étant unie pour toujours à ce mari, reçoit un nom nouveau. Donc, voilà un cas. Mais imaginons, pensons, ce qui est maintenant la relation entre Christ et son épouse. Qui est son épouse? Selon Éphésiens, chapitre 5, si nous tournons là, nous voyons que l'épouse, c'est le peuple que Christ a racheté. Et c'est donc ainsi que l'épouse prend le nom de son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui professent, qui sont chrétiens. Le mot chrétien signifie celui qui appartient à Christ. Donc il y a beaucoup qui professent appartenir à Christ, mais nous savons selon Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 22, beaucoup diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom ?» Mais Christ dira, « Départez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Seulement ceux qui sont connus dans l'alliance de la grâce éternelle depuis l'éternité en Jésus-Christ, ceux que le Père a donné à son Fils, ceux-là, seuls, peuvent prendre ce nom chrétien. Ce sont ceux-là qui ont leur nom déjà inscrit dans les cieux, dans le rouleau de l'agneau, le rouleau de vie, le livre de vie de l'agneau. Ça, ce n'est pas selon le choix de l'homme, mais c'est Dieu qui a fait son choix. Exactement comme un mari fait choix de son épouse. Et cette épouse, désormais, porte ce nom. Ici, dans Éphésiens chapitre 5, voilà l'explication que Paul donne concernant l'Église et la manière que Christ, l'époux, le mari, a aimé sa femme, son épouse, dans Éphésiens 5 et le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau. Cela ne signifie pas que le salut est dans le baptême, mais le baptême représente la purification, être immergé en Christ. Et voilà, verset 25-27, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, notez, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et Paul dit, dans le verset 32 du même chapitre, « Ce mystère est grand. » Oui, c'est un mystère, même en lisant ici dans Isaïe 62, ces deux premiers versets, c'est un mystère. L'homme naturel ne peut pas saisir que chaque mot ici a une signification spirituelle, parce que tout ce que l'homme naturel voit, il voit Sion, donc il dit « Ah, ça c'est Jérusalem ». Et donc, beaucoup imaginent aujourd'hui que c'est l'amour de Dieu en particulier pour les Juifs, voilà comment ils traduisent cela, mais ce n'est pas ce sens. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de l'Église de Christ, cette épouse qui lui a été donnée par le Père, je ne me tairai point. Pas pour l'amour de Jérusalem. Quelle Jérusalem? L'ancienne Jérusalem, Paul le dit, n'est plus. Parce que Christ est venu accomplir tout ce qui concernait cette ancienne Jérusalem. Mais maintenant, nous nous approchons d'une Jérusalem céleste. Donc, c'est pour l'amour de Jérusalem, cette assemblée céleste qui concerne toutes les nations, non seulement les Juifs, comme c'est écrit ici dans le verset 2, alors les nations, ce peuple choisi de toute langue, de toute tribu, tout peuple, pour qui Christ est mort, il a racheté ce peuple-là. C'est un mystère, Paul le dit, dans Éphésiens 5, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Laisse que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà l'exemple qui nous est donné dans le mariage, mais c'est l'exemple que nous voyons en Christ. Donc, voilà une situation où quelqu'un prend un nom nouveau. C'est parce que, comme l'épouse maintenant prend le nom de son mari, nous qui sommes les élus de Dieu, nous prenons le nom de Christ. Et c'est ce nom nouveau dont le prophète ici parle quand il dit « Et l'on t'appellera d'un nom nouveau ». C'est spirituellement parlant. Lorsque Christ est venu, il a tout accompli. Ce n'était pas accompli jusqu'à ce qu'il ait donné sa vie en rançon pour ceux que le Père lui a donné. Oui, c'était déjà annoncé, prédéterminé avant les temps éternels, mais le moment devait arriver. C'est comme dans n'importe quel mariage. D'abord, il y a les préparations et il y a l'annonce de la part de l'époux de prendre telle femme comme son épouse. Mais le moment vient alors où cela est accompli. C'est exactement comme ça avec l'Église, prédestinée depuis l'éternité, mais dans l'accomplissement du temps. C'est ce que Paul écrit aux Galates, dans Galates chapitre 4 et verset 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscissions l'adoption. Donc voilà, nous arrivons à un deuxième exemple où quelqu'un est donné un nom nouveau. C'est dans l'adoption. J'ai deux enfants que nous avons adoptés. Mais lorsque l'adoption était finalisée et que c'était officiel, ces deux enfants ne portent plus le nom de leur premier père, mais ces enfants portent maintenant le nom de Ken Weimer. C'est sur le certificat de naissance même. Il y a un certificat pour chacun de mes enfants, mais lorsque vous regardez ce qui est écrit dans ce certificat, c'est comme si ces deux enfants étaient nés dans ma famille et sortis de moi. Pourtant, ils portent mon nom à cause de l'adoption. L'adoption, c'est de prendre un être humain d'une situation, d'une famille, et de faire en sorte à ce que cela devienne partie de votre famille. Et c'est ce que Dieu a fait, parce que nous étions des enfants d'Adam, et nés dans la condamnation. Adam était notre premier père en ce qui concerne notre nature. Et tout ce qu'il a pu nous donner, c'était la condamnation. C'est par lui que le péché est entré dans le monde et tous alors sont devenus pécheurs en lui. Je ne suis pas pécheur aujourd'hui parce que je pêche, mais je pêche parce que je suis pécheur. Et cela, j'ai hérité de mon père Adam. Mais voilà, dans le salut et surtout dans l'adoption, je ne porte plus le nom d'Adam. J'ai un nom nouveau, et c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est de ça que Paul écrit aux Galates. Il fallait que Christ vienne, et né d'une femme, il ne pouvait pas prendre lui-même la nature d'Adam. Si c'était Joseph qui était la sémence pour faire venir Christ dans ce monde, donc Christ aurait dû prendre alors cette nature pécheresse. Ça, c'était impossible. Alors, voilà encore un mystère que c'est l'Esprit qui a mis en Marie, une vierge, cette semence. Et normalement, la semence vient de l'homme, mais ici, la semence était mise dans la femme. Et à partir de là, Christ est venu, alors sans péché, mais né sous la loi. Il ne pouvait pas simplement mettre de côté cette loi qui nous condamnait parce que nous sommes pécheurs. Donc lui-même, il s'est soumis à la loi afin de satisfaire chaque demande, exigence de cette loi et justice de Dieu à l'égard de ce peuple que Dieu a ordonné qu'il adopte, qu'il prenne de cette famille d'Adam et maintenant place cela dans sa famille, sous la tutelle de son fils. Et c'est pourquoi c'était nécessaire à ce que Christ obéisse la loi en chaque exigence de cette loi et qu'il paye la peine de cette loi, qui nous valait. Mais il a payé cela. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Quand est-ce que ceux qui appartiennent à Christ étaient adoptés? Ce n'était pas dans l'éternité, parce que c'était nécessaire que la loi soit satisfaite. Oui, c'était ordonné depuis l'éternité. Mais le moment de l'adoption, ici, c'est lorsqu'il a racheté. C'est au moment où le paiement a été fait à la satisfaction de Dieu le Père. D'autres disent, non, nous sommes adoptés lorsque nous croyons. Non, non, c'est à la croix. Tout s'est passé à la croix en ce qui concerne le salut du peuple de Dieu. Lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés déjà enfants de Dieu. Seulement, nous ne le savons pas encore parce que nous sommes nés dans le péché et il faut que l'Esprit de Dieu, à travers la prédication de l'Évangile, vienne nous annoncer cet Évangile. Et lorsqu'il plaît à l'Esprit de nous ouvrir les yeux, c'est ainsi que nous contemplons alors que nous étions les enfants de Dieu depuis d'abord l'éternité, parce que Dieu a ordonné depuis l'éternité que nous soyons ses enfants, mais nous avons reçu l'adoption lorsque Christ a payé la dette. Et c'est ainsi par l'Esprit, dans le verset 6, notez, parce que vous êtes fils, ça ne dit pas parce que vous êtes devenu fils, c'est comme un élu. Depuis jamais, nous sommes élus de Dieu. Nous sommes, depuis l'éternité, brebis. Ce n'est pas que nous étions nés bouc et puis maintenant nous sommes devenus brebis. Non. Parce que vous êtes fils, par la grâce de Dieu, par son élection, par l'œuvre de rédemption de Christ à la croix, la justification à la croix, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Le mot « Abba » est un terme qui est réservé uniquement pour les enfants. C'est un terme tendre dont un enfant adresse à son père. Et notez, c'est par l'esprit que celui qui a été choisi par Dieu et adopté par la mort de Christ, reconnaît. C'est comme mes deux enfants qui sont adoptés. Lorsqu'ils sont venus dans notre famille, ils étaient très petits et donc n'étaient même pas au courant de leur situation. Encore très, très jeunes, bébés. Mais à travers le temps, c'est lorsque je prenais le temps de leur expliquer ce qui était leur situation et comment ils sont devenus maintenant partie de notre famille. C'est à travers l'explication, c'est lorsque je leur ai révélé ces choses que voilà maintenant ils comprennent. Et c'est comme ça dans l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile à des gens que certains d'entre eux sont déjà choisis et racheté, mais jusque-là, l'Esprit de Dieu ne leur a pas ouvert les yeux pour connaître et comprendre que leur salut était accompli déjà par la grâce de Dieu à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qui sont effectivement déjà enfants de Dieu, mais c'est lorsque l'Esprit, en son temps, révèle cela qu'ils arrivent à crier de leur cœur « Abba Père ». Il y a beaucoup qui prononcent le nom de Dieu comme s'il est leur Père, mais ils ne connaissent rien du salut. Ils sont encore dans l'aveuglement. Ils poursuivent un chemin d'œuvre ou de leur propre volonté, imaginant que C'est un salut qui doit mériter. Voilà comment c'est prêché, mais ce salut n'est pas mérité. Les pécheurs qui sont sauvés sur les mérites du Seigneur Jésus-Christ seul. Et lorsque nous revenons ici dans Isaïe chapitre 62, pour conclure, notez ce qui est dit dans le verset 2, que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera d'un nom nouveau. Et comme on l'a vu, on reçoit ce nom nouveau, soit par notre union avec le Seigneur Jésus-Christ comme notre époux, et nous portons son nom, ou bien par l'adoption. Nous venons de regarder ensemble, mais c'est selon que la bouche de l'Éternel déterminera. Il y a un salut qui est prêché aujourd'hui où les gens s'imaginent que c'est selon leur choix. Non, ce n'est pas selon leur choix, mais c'est selon ce que Dieu lui-même a déterminé. Oh, quel merveilleux témoignage de constater qu'il a plu à Dieu de nous regarder dans l'amour, quand c'est écrit ici dans Isaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Christ et de ce peuple qu'il a donné à son Fils de sauver. Isaïe dit, je ne me tairai point. Voilà le message. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne sommes pas en train de sortir pour prêcher, essayer de gagner les âmes et influencer des gens à prendre une décision pour Christ. Non. Dieu a déjà son peuple qu'il a choisi et qu'il a donné à son fils pour être son épouse. Et que Christ est déjà venu payer leurs dettes en ce qui dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est accompli. Quel message merveilleux! Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne sommes pas en train de dire ça à tout le monde, mais pour ceux que Dieu a aimés d'un amour éternel, ce peuple-là, tout est accompli. Ce n'est pas à moi de dire ça à qui que ce soit, mais c'est l'Esprit qui révèle cette nouvelle au cœur de ceux pour qui Christ est mort. Et lorsqu'il révèle, quelle joie de savoir maintenant que c'est grâce à cet amour, comme il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de cette nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, ce peuple, cette assemblée de premiers-nés que nous avons vue dans Hébreux 12. Nous ne prendrons point de repos. Chaque jour que nous nous levons, que le Seigneur nous donne l'occasion d'aller sortir et annoncer Christ, c'est pour ce peuple-là d'aller annoncer la liberté en Jésus-Christ et d'être délivré de toute fausse pensée, fausse voie et être placé maintenant dans la seule voie nécessaire, c'est la voie du salut en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Lorsqu'Isaïe annonçait cela, l'accomplissement de cela dans l'œuvre de Christ n'était pas encore venu. Mais il regardait à ce que ce salut paraisse. Il parle de la venue du Christ comme l'aurore. Toutes les nuits, voilà l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ce sont des mots qui décrivent la personne de Christ, qui est la lumière. Il est le soleil. Et lorsqu'il est venu, c'est pour l'accomplissement de cette alliance que Dieu a établie avec ce peuple. Et c'est alors, notez bien les mots, alors les nations verront ton salut. Ce peuple de toute nation, de toute langue, dont Jean écrit dans le livre d'Apocalypse. Nous allons terminer avec ce verset, Apocalypse et le chapitre 5, c'est un peuple racheté de tout peuple, de toute langue. Et ceux-là verront, parce que Dieu leur donne des yeux pour voir. Et notez ici encore le mot qui est utilisé, on parle ici d'un nom nouveau. C'est écrit, quand il eut pris le livre, les 80 vivants et les 24 veillards, les quatre êtres vivants représentent les anges et les 24 veillards. Il y a 12 patriarches de l'Ancien Testament, 12 apôtres du Nouveau Testament. L'ensemble représente l'Église. Se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints, de nos saints, ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ, qui adressent à Dieu, à travers Christ, qui est représenté par ces coupes d'or, ils adressent à lui des prières. Le mot prière là signifie de l'adoration. Et qu'est-ce que nous voyons ici dans le verset 9? Et ils chantaient, notez le mot, un cantique nouveau. Un nom nouveau, un cantique nouveau. Pourquoi c'est un cantique nouveau? Parce que c'est basé sur l'œuvre de Christ accomplie. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car, notez, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, notez, pas tous les hommes, mais des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et fils. Et ils régneront sur la terre. Ils règnent maintenant, parce que Christ règne. Nous n'entendons pas un autre jour où Christ reviendra pour régner. Lorsqu'il revient, c'est pour complètement éliminer, finir ce monde de la manière qu'il existe aujourd'hui. Il a déjà tout fait, tout ce qui attend le retour de Christ, c'est simplement parce qu'il y en a encore. Il y en a encore de ses fils qui doit appeler. Mais le salut est déjà déterminé. Oh, quelle joie de pouvoir glorifier et entendre prêcher un tel Dieu à qui est toute la gloire. Et que le Seigneur nous donne ce cœur pour l'adorer et lui donner toute la gloire pour toutes ses richesses de cette grâce en Jésus-Christ. Amen.